6h19, bonjour Marc Wetzmann.
Bonjour.
Marc Wetzmann, écrivain, journaliste, vous avez assisté à une grande partie du procès Mehdi Nemmouche à Bruxelles qui a commencé en janvier et dont on connaîtra le verdict cette semaine. Mehdi Nemmouche, on le rappelle, auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles en 2014, 4 personnes tuées. Et vous le racontez pour une partie dans un reportage que l'on peut lire dans Le Point cette semaine. Le procès, on l'a dit, a duré 2 mois. Au-delà de votre reportage paru dans Le Point, quel procès vous avez vu, Marc Wetzmann?
J'ai vu un peu ce que je raconte dans Le Point justement. Oui. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'était de voir un militant. Mehdi Nemmouche est depuis le début. Moi, j'avais suivi les audiences du procès de Versailles déjà, où il était question de son extradition. Et depuis le début, l'obsession de Mehdi Nemmouche, c'était de faire valoir une théorie bien précise. C'est-à-dire que il a des ennemis. Ses ennemis, c'est les sionistes. Et donc tout s'explique par là, sa détention, le procès lui-même et éventuellement ce qu'il a fait, parce que dans les audiences à Versailles, qui étaient vraiment les audiences de son extradition vers la Belgique, il était pratiquement en train de presque en train de revendiquer les meurtres. C'était pas complètement explicite, mais c'était quand même très. Il s'adressait au juge de manière très ferme. Il expliquait que s'il est extradé vers la Belgique, les Belges le livreraient à ses ennemis, à savoir Tel Aviv.
Et ça va être l'objet d'ailleurs de la défense de ses avocats.
Voilà.
Et on va y venir, mais je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on ressort de ce procès avec des certitudes sur cet homme, Mehdi Nemmouche?
La seule certitude, c'est que c'est sa détermination. Elle apparaît. Il est pratiquement muet. Il prend pas la parole. Il laisse ses avocats parler tout le long. Il semble, j'ai pas de certitude là-dessus, mais il semble que sa défense, qui est une défense pratiquement une défense de rupture, dans laquelle vraiment c'est la théorie du complot, soit dictée par lui en fait. C'est lui qui a voulu ce type de défense. Donc voilà, la seule certitude qu'on ait, c'est que c'est un militant. Au départ, c'est un petit délinquant. Hein. Et puis, il y a une évolution. C'est un fils de harki qui a grandi à Roubaix. Il y a une évolution qui est Roubaix dans les années 90. C'était vraiment un milieu très très islamisé. Le front islamique du Stadu était très présent. Les frères musulmans également. On pouvait pas échapper à cette influence si on cherchait son identité à cette époque-là. Il s'est radicalisé. Il est parti en Syrie. Il est devenu un combattant de l'État islamique et il est revenu. On sait qu'il avait des contacts avec Abaoud et avec toute la nébuleuse des attentats du 13 novembre de 2015, et que l'attentat au musée juif de Bruxelles faisait partie d'une stratégie globale.
Mais Marc Wetzmann, vous parlez de militant, vous n'utilisez pas le terme terroriste pour Mehdi Nemmouche?
Ah oui, si, bien sûr, non, je dis militant parce que, mais bien sûr,
militant,
c'est un terroriste,
cause,
oui, militant d'une cause, il s'agit bien sûr d'un terroriste, il n'y a aucune ambiguïté. Hein.
Mais Marc Wetzmann, le titre de votre reportage, c'est Nemmouche à la croisée des haines.
Oui, c'est-à-dire que c'est un militant de la haine.
Ouais.
C'est ça que je veux dire.
Et quand vous dites à la croisée des haines, pour vous, dans ce reportage, il y a 3 choses qui sont présentées. Les victimes, Mehdi Nemmouche et ses avocats. Et vous insistez beaucoup sur ses avocats. C'est quelque chose qui vous a marqué?
Oui, c'est pour ça que je voulais faire le reportage. C'est que ça illustre le reportage, il me semble, enfin la situation, le procès illustre un peu ce que je raconte dans mon livre Un temps pour haïr. Et ce qu'on voit, c'est un des rares exemples concrets où on voit un terroriste islamiste manifestement antisémite défendu par des avocats qui sont des avocats d'extrême droite et aussi des avocats de Dieudonné. Et des amis de Dieudonné. Tous les deux sont titulaires de ce que Dieudonné appelle une quenelle d'or. Hein. C'est l'espèce de prix qu'il donne au plus cinglé de ses partisans. Et l'un des deux avocats, Henri Laquais, était un membre du Front National, faisait partie aussi d'un groupe qui s'appelait Belgique et Chrétienté, qui était obsédé par la lutte contre le mariage gay, et qui s'est fondu ensuite dans le mouvement Civitas, qui était une des organisations qui avait organisé Jour de colère, la manifestation contre le gouvernement Hollande en 2014, dans laquelle, manifestation d'extrême droite, dans laquelle on a entendu pour la première fois des slogans antisémites dans les rues de Paris. Quant à Sébastien Courtois, qui est le plus flamboyant des avocats, c'est un défenseur historique des Gilets jaunes. Je l'ai interviewé dans le reportage et il m'explique comment ils sont arrivés à défendre Medine Mouche. C'est très intéressant. C'est passé par Dieudonné. Donc il y a vraiment une sorte de nébuleuse là qui est intéressant à voir parce qu'on voit une sorte de lien presque culturel en quelque sorte.
Oui, parce que Marc Wetzmann, dans le procès d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, Éric Dupond-Moretti dit il faut défendre tout le monde. Tout le monde a le droit à une défense, ce qui est le droit français. En filigrane dans le point, ce que vous racontez finalement, c'est que ces deux avocats défendent finalement en fonction de leurs convictions, ce qui est différent ici.
Oui, alors c'est une conviction qu'ils n'ont pas assumée comme telle. Hein.
Oui, ça c'est bien clair, oui.
Mais ils se retrouvent dans la dénonciation du système, comme l'a expliqué Sébastien Courtois, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, je suis pour tous ceux qui veulent foutre en l'air le système, il me le dit dans le reportage. Voilà, c'est cette sorte de nébuleuse. Alors, on parle beaucoup des islamo-gauchistes qui existent, hein, bien sûr. Il y a à l'extrême gauche, il y a toute une tendance qui a une certaine indulgence pour la violence, mais on trouve dans la droite dure et dans la droite antilibérale le même genre d'attirance. Et c'est ça qui m'intéressait de montrer.
Et Marc Wetzmann, votre livre Un temps pour haïr, qui est paru cet automne, évoque aussi le cas de ces jeunes gens convertis, ouais. Le problème de la culture de l'immigration, les restes de la colonisation. Est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'écrivain, de regarder ce temps contemporain?
Oui, bien sûr, c'est intéressant. C'est intéressant pour un écrivain. C'est un temps de tout le monde. C'est un temps de haine. De haine pas forcément mise en acte, mais de haine dite quand elle n'est pas mise en acte. J'étais frappé par ce type de 65 ans qui a été arrêté par la police là parce qu'il faisait des tags antisémites. Un type de 65 ans, conseiller financier aux Yvelines, dans la région des Yvelines, et quand il a expliqué aux policiers qu'en fait il ne savait pas pourquoi il faisait ça, mais qu'il avait été influencé par les images de violence des Gilets jaunes, et il trouvait que ça lui permettait, une fois qu'il a commencé, il pouvait plus arrêté. Il taguait Macron au four, Macron à Dachau et des croix gammées. Il a expliqué que ça lui permet. Il avait l'impression que ça lui permettait d'exprimer toute la haine qu'il avait au fond de lui depuis très longtemps. Et je trouve que c'est l'époque qu'on est en train de vivre est celle-là, une époque de contagion de la haine et de jouissance de la haine qui s'exprime à travers des actes qui est typique d'une France post-attentat. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui n'aurait sans doute pas été possible avant les attentats. Ça a libéré quelque chose. Et ce que ça a libéré, c'est une certaine forme de jouissance qui n'est pas forcément meurtrière, qui peut être seulement dans les mots. Mais qui peut quand même aller loin. Et je trouve ça très intéressant à observer parce que c'est le langage. Un écrivain s'intéresse au langage et à ce qui se passe à travers le langage de pulsions incontrôlables.
Et finalement, le procès de Medine Mouche, pour vous, c'est une forme de procès d'antisémitisme, c'est ça?
Ah bah c'est présent constamment. Hein. La cible, c'est le musée juif de Bruxelles. La défense a tout axé sur la théorie selon laquelle deux des victimes étaient des agents des services secrets israéliens. Tout tourne autour de l'obsession d'Israël, des Juifs et d'un mystère, d'un complot autour des Juifs et d'Israël. Oui.
Marc Wetzmann, vous concluez votre article par cette phrase qui est reprise en fait à la présidente de la Cour. Vous dites « leur mort n'avait rien à voir avec leur vie ». C'est important aussi de remettre les choses à leur place.
Oui, c'est la terreur. C'est une phrase intéressante qu'a prononcée la présidente du tribunal. Parce que les avocats de Medine Mouche essayent, c'est ça la théorie du complot, ils essayent de faire sens de quelque chose qui n'a pas de sens. Ils essayent de dire « voilà, il y a une raison, tout ça est ordonné ». Et si ces gens sont morts, c'est parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui allait vers cette mort. Et ce que dit la présidente du tribunal, c'est la phrase typique, c'est la définition de la terreur. Leur mort n'a rien à voir avec leur vie. C'est parfaitement injuste et c'est le hasard de la terreur.
Merci beaucoup, Marc Wetzmann. Votre reportage et votre réflexion sur le procès sont à lire dans Le Point. Et puis je rappelle aussi que vous êtes l'auteur, donc on l'a dit, d'Un temps pour haïr, sorti cet automne chez Grasset. Merci, Marc Wetzmann.
Merci à vous.
Et belle journée.
Merci.